Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble plusieurs actualités africaines marquantes. On s'appuie sur des articles d'Africa Press du 29 mai 2025. L'idée c'est vraiment de décrypter les points essentiels.
Oui, bonjour, et on a pas mal de sujets sur la table, hein. Les tensions au sein de la CEDEAO pour ses 50 ans, une loi sur la presse qui fait grincer des dents en Centrafrique.
Il y a aussi la Namibie, je crois.
Absolument. La commémoration d'un génocide en Namibie, le sort tragique des réfugiés rwandais en RDC, et puis un dialogue national qui s'amorce au Sénégal. C'est assez varié comme panorama.
Commençons donc par la CEDEAO, son 50e anniversaire à Lagos. L'ambiance n'était pas vraiment à la fête, si je...
Non, plutôt sobre, en effet. Il y a eu cet appel à l'unité de Yacoubou Gourand, le dernier père fondateur encore là. Et puis, des inquiétudes fortes exprimées par d'anciens responsables comme Mohamed Ibn Chambas ou Lansana Kouyaté. Ils insistent sur le besoin urgent d'adaptation de l'organisation.
Et cette nécessité d'adaptation, elle est directement liée à la crise actuelle, hein ?
Exactement. La crise majeure, c'est bien sûr le départ annoncé du Mali, du Niger, du Burkina Faso. L'ASS, l'Alliance des États du Sahel.
Oui.
Ça révèle vraiment les faiblesses de l'intégration régionale. On est dans le flou total sur l'avenir des relations et surtout sur un acquis fondamental comme la libre circulation.
La libre circulation, c'est quand même un pilier historique de la CEDEAO.
Tout à fait. Et là, on voit des stratégies qui divergent déjà. Le Togo, le Ghana, ils essaient de garder le contact avec l'AES. Le Nigeria, lui, est sur une ligne plus ferme. Ça redessine la carte régionale, en fait.
Et cette question de la gouvernance, des tensions politiques, on la retrouve ailleurs. En Centrafrique, par exemple, une nouvelle loi sur la presse vient d'être adoptée. Et elle réintroduit le délit de presse.
Oui, et ça provoque une levée de boucliers chez les journalistes. Bélisaire Dorval-Saoul, par exemple, parle carrément d'une volonté de museler la presse.
Museler la presse. Le gouvernement, lui, il a une autre lecture.
Le ministre Balalou parle, lui, d'un besoin d'encadrer des communications qui créent des distorsions. Bon, c'est la rhétorique habituelle dans ces cas-là. Maintenant, tout le monde attend la rencontre avec le président Touadéra pour voir si une issue est possible.
C'est un dossier à suivre, donc. Pendant ce temps, en RDC, au Nord Kivu, une situation humanitaire très grave se déroule.
Ah oui, le rapatriement des réfugiés rwandais. Près de 1800 personnes renvoyées vers le Rwanda.
Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ça semble avoir été orchestré par le groupe armé M23.
C'est ça qui est troublant. Les témoignages de réfugiés parlent d'un retour forcé, brutal. Ils disent avoir tout perdu. Ça contraste violemment avec la version de Kigali, qui parle de réintégration.
Et les organisations internationales, qu'est-ce qu'elles en disent, le HCR ?
Le HCR note justement que ce rapatriement s'est fait en dehors du cadre habituel, l'accord tripartite, RDC, Rwanda, HCR. Normalement, cet accord garantit un retour volontaire, digne et sécurisé. Là, avec le M23 aux commandes de l'opération, c'est très alarmant.
Face à ces crises, il y a quand même des tentatives pour avancer. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a lancé un grand dialogue national.
Oui, une initiative d'ampleur. 800 participants pour essayer de réformer le système politique après des années de tensions. Hein. On parle du nombre de partis, du financement, de la justice.
Il y a de l'espoir. Des personnalités comme Fadel Barrow semblent y croire, parlent d'une chance de retrouver la sérénité.
Il y a de l'espoir, oui, mais aussi pas mal de scepticisme, soyons honnêtes. Est-ce que ça va déboucher sur du concret ? C'est toute la question. Rassembler 800 personnes, c'est une chose. Trouver un consensus sur des points aussi sensibles, c'en est une autre. Un autre registre maintenant, la mémoire historique. En Namibie, le 28 mai est devenu une journée officielle. Oui, la journée nationale du souvenir du génocide des Herero et Nama, perpétré entre 1904 et 1908 par l'Allemagne coloniale. C'est une initiative de la nouvelle présidente, Netumbo Nandi Ndaitwa.
C'est un acte fort, symboliquement.
Très fort et attendu. L'Allemagne avait reconnu le terme « génocide » en 2021, mais que l'État namibien l'inscrive ainsi dans son calendrier officiel, c'est une étape cruciale pour la mémoire nationale.
Mais ça arrive dans un contexte particulier, non ? Avec les négociations sur les réparations.
Exactement. Et c'est là que le bât blesse un peu. Ces négociations avec l'Allemagne sur d'éventuelles réparations financières, elles sont au point mort. Du coup, les réactions sont mitigées. Pour certains, c'est un pas indispensable. Pour d'autres, ça reste insuffisant tant qu'il n'y a pas de justice réparatrice concrète.
Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, on voit une Afrique traversée par des défis de gouvernance très forts, des tensions régionales vives, le poids de l'histoire qui reste prégnant et des enjeux humanitaires critiques.
C'est ça. Et ce qui est frappant, au fond, c'est que toutes ces situations, aussi différentes soient-elles, elles posent une question commune, vous savez ?
Laquelle ?
Mais comment est-ce que ces nations africaines naviguent, hein ? Comment elles tracent leur voie entre les héritages du passé, parfois très douloureux, la gestion des crises d'aujourd'hui, et puis cette aspiration fondamentale à construire un avenir plus stable, plus juste pour les citoyens. C'est peut-être ça le fil rouge de tout ce qu'on vient d'évoquer.